Tous. Dieu a parlé directement à nous ces dernières semaines. Il s'exprime très clairement à des choses. Je crois qu'il a déjà fait les choses que je suis en train de faire ce matin. Mais je continue quand même. Depuis le début de janvier, Dieu nous rappelle quelques éléments fondamentaux de notre foi chrétienne pour nous aider et nous aligner à avancer dans cette nouvelle saison. Il nous a parlé de la foi avec Pierre, de l'amour avec Jean et la semaine dernière de la repentance avec Farid. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin et parler d'un sujet que Farid a commencé à aborder la semaine dernière, la grâce et le pardon, mais aussi la puissance. La grâce et le pardon sont très liés. Et il y a un certain nombre de points dont j'ai senti que nous devions parler aujourd'hui. Nous avons parlé beaucoup sur la grâce l'année dernière, mais je reviens avec quelques points clés pour nous dans cette nouvelle saison et avec le pensée et les mots qui sont venus dans les dernières quelques semaines. La grâce et la faveur et l'amour non mérité de Dieu à notre égard. Cela signifie que la grâce est un don que nous est offert gratuitement. Nous ne pouvons jamais la mériter. Elle est donnée par amour pour chacun d'entre nous, par Dieu. Nous parlons souvent de cette grâce et je crois que j'en ai parlé récemment. Et on a vu dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, et c'est probablement le plus célèbre des versets utilisés de décrire la grâce. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous. Il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de votre effort. Et ainsi, personne ne peut se vanter. C'est quelque chose que nous connaissons bien, je crois. Et j'espère que nous le célébrons tous quotidiennement. Parce que la grâce de Dieu vous a sauvé et vous a créé pour être un être nouveau. Si on vu 2 Corinthiens 5, 17 jusqu'à 21, j'étais sur les diapos, mais ça ne marche pas aujourd'hui, désolé. Dès que quelqu'un est uni à Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau, et là, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par la Christ, et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car par le Christ, Dieu agit pour réconcilier tous les humains avec lui, sans tenir compte de leur faute. Et il nous a chargé d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même vous adresse un appel pour nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que par lui nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. Grâce à la grâce, les choses anciennes sont passées et nous ne sommes plus retenus par la peine de péché, qui est la condamnation éternelle, mais nous pouvons vivre dans la liberté de l'amour et de la grâce de Dieu. Comme Farid l'a si bien mentionné la semaine dernière, la grâce n'est pas une licence que nous permet à continuer à pécher encore et encore. Et je l'utilise les mots qu'il a utilisés, comme un chien qui revient à son propre vomi. Mais nous devons comprendre ces points. Nous devons le comprendre parce que nos vies devraient être transformées. Mais si nous continuons à revenir à nos péchés et à notre vomi, alors nous ne transformons pas nos vies pour devenir ce à quoi Dieu nous a appelés. Avons-nous vraiment accepté et disposé nos vies et accepté cette seconde naissance? Vivre dans la grâce, c'est aussi pardonner. La grâce et le pardon sont étroitement liés. La Bible parle beaucoup de pardon et nous sommes encouragés à nous pardonner les uns et les autres, comme Dieu nous a pardonnés. Colossiens 3, 13 nous enseigne: supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a raison de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Matthieu 6, 14 et 15, Jésus enseigne: en effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Je ne pourrai jamais prétendre comprendre exactement comment chacun d'entre vous a été blessé dans sa vie. Ce n'est pas possible. Je ne peux le comprendre que pour moi-même. Toutes les expériences que j'ai vécues et la manière dont j'ai pu être laissé par des personnes et aussi toutes les choses que j'ai faites aux autres. Comment puis-je arriver à pardonner sans connaître l'histoire? Nous sommes appelés à pardonner les autres. Parce que si nous ne pouvons pas apprendre à pardonner les autres, aux autres, Dieu ne peut pas nous accorder le même pardon, non parce qu'il ne le veut pas, mais parce que nous ne le faisons, ne laissons pas faire. Parce que nous ne le laissons pas faire. C'est simplement ça. Exactement de la même manière que nous recevons la grâce et le pardon de Dieu. En fait, c'est cette grâce de Dieu qui nous donne la force et la volonté de pardonner aux autres, car nous vivons dans la conscience que nous sommes nous aussi pardonnés. Nous donnons la grâce parce que nous avons reçu la grâce et que nous vivons dans la grâce. Le Christ en était l'exemple ultime en mourant sur la croix par amour inconditionnel pour que nous puissions être pardonnés. l'une des grandes qualités de la grâce dans le pardon, c'est que nous pouvons faire l'expérience de la liberté et de la guérison. Le pardon nous libère de toutes les blessures et de la colère que nous pouvons nourrir. Il nous permet de laisser tomber le passé et de nous engager dans une vie d'amour et de miséricorde de Dieu. Un pardon véritablement empreint de grâce nous permet également de progresser vers la réconciliation et la restauration des relations. Il y a de nombreuses années, alors que j'avais à peu près 15 ans, et ma mère est morte d'un cancer. Environ 4-5 ans plus tard, mon père s'est remarié et sa vie a radicalement changé. Ma belle-mère était une chrétienne née de nouveau et je lui suis très reconnaissant de l'avoir amenée à Christ. C'était super. Cependant ça, à l'époque de le mariage et un peu après, nous avons traversé une mauvaise passée. Des choses ont été faites et dites et j'ai été chassé de la maison et j'ai dû vivre avec mon oncle et ma tante. Je ne sais pas comment les choses ont pu en arriver là, mais c'est ce qui a passé. Il y a eu beaucoup de colère et d'émotion, et ma sœur, mes deux frères et moi avons décidé que c'était fini et nous avons presque coupé les ponts. Nous avons des contacts très limités pendant un long temps. Ensuite, presque 5 ans plus tard, je suis tombé malade. Nous sommes en Afrique du Sud à ce moment. Et j'ai dû aller chez mon père pendant environ un mois. C'était dur. Pendant cette période, j'ai décidé de me battre avec mon père et de lui faire comprendre à quel point il nous avait fait du mal. Et nous avons déçu en tant que père. Et vous savez quoi? Nous sommes assis sur le canapé ensemble, mon père et moi. Et avant que je puisse commencer à parler et de battre avec lui, mon père s'est tourné vers moi et m'a dit, s'il te plaît, peux-tu me pardonner, Andrew? Avant que je dise rien, il continue. Ta mère et moi n'étions pas chrétiens. Et nous ne savions certainement pas comment élever des enfants correctement. Et je ne dis pas que je le sais maintenant. Mais je me rends compte du mauvais travail que nous avons fait. S'il te plaît, peux-tu me pardonner? Quelle humilité et quelle libération! Notre relation a changé à partir de ce moment. Et nous sommes réconciliés. J'ai pu lui pardonner. Lorsque je l'ai rencontré au reste de la famille, ils m'ont répondu qu'ils devaient nous dire la même chose avant que nous puissions lui pardonner. j'étais dessus. Il ne l'a jamais fait et je suis sûr qu'il a regretté jusqu'à le jour de sa mort. Mais en réfléchissant au pardon, il n'aura pas dû avoir besoin de le faire. Si nous comprenions le véritable pardonner, le véritable acte de pardon, il devrait être donné librement et ils auraient dû lui pardonner de toute façon. Le résultat est qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir une excellente relation avec leur père et de découvrir un homme très différent qui avait été changé par sa rencontre avec Dieu. La semaine dernière, j'ai réfléchi à la repentance et je n'arrêtais pas de me demander pourquoi, en tant qu'être humain, nous péchons encore et continuons souvent à commettre le même péché. C'est pas juste, c'est bon, on est content de le faire. Plus j'y réfléchissais, que je me rendais compte d'une chose importante, le pardon. En tant que chrétien, par la grâce, lorsque nous nous repentons, nous savons que Dieu nous pardonne nos péchés. Nous considérons parfois le pardon de Dieu comme une autorisation de continuer à pécher et malheureusement, dans certaines églises du monde, la grâce est présentée dans cette manière. C'est très triste. Je voudrais revenir sur un point qui me semble important pour nous tous. Ce que je voulais soulever, c'est la question du pardon et du fait de se pardonner à soi-même. À proprement parler, il ne peut y avoir de pardon pour soi-même. Ce n'est pas possible. Et j'ai lu un article intéressant de John Piper. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Il a écrit un article sur ce sujet. Le pardon consiste à rechercher le pardon de quelqu'un que l'on a blessé. Normalement, lorsque quelqu'un n'a pas parlé de se pardonner, il veut dire qu'il se pardonne pour quelque chose qu'il a fait à quelqu'un d'autre. Cela n'a pas de sens. Mais c'est un problème auquel de nombreuses personnes sont confrontées. Et Papa a cité l'écriture suivante, 2 Corinthiens 7, versets 8 à 10. En effet, même si la lettre que je vous ai écrite vous a attristé, je ne le regrette pas maintenant. J'ai pu le regretter quand j'ai constaté que cette lettre vous avait attristé momentanément. Mais maintenant, je me réjouis, non pas de vous avoir attristé, mais de ce que votre tristesse vous a fait changer de comportement. Cette tristesse était telle que Dieu le voulait, si bien que nous ne vous avons causé aucun tort. Dans ce texte, Paul parle ici de la tristesse divine et de la tristesse du monde. La première mène à la repentance et à la vie, tandis que l'autre mène à la mort. Lorsque les gens parlent de la nécessité de se pardonner, ils sont coincés entre le chagrin du monde et le chagrin de Dieu, de l'autre côté, et ne parviennent pas à accéder à la liberté à cause de ça. Le chagrin qui mène à la mort est un chagrin de haute condamnation. Et c'est ce avec quoi beaucoup de gens luttent, ce qui les empêche de passer au péché. La grâce de Dieu est suffisamment grande pour cela, mais nous ne l'acceptons pas vraiment. Mais pourquoi? Ce qui est subtil ici, c'est que de nombreuses personnes n'acceptent pas vraiment le message de pardon dans la Bible parce qu'elles ne parviennent pas à surmonter l'énormité des péchés qu'elles ont commis et qu'elles se jugent indignes d'accepter le pardon. Il nous arrive à tous de ressentir cela. Nous sommes coincés dans un cycle d'orgueil qui nous empêche d'accepter le pardon que nous est offert. Comme l'a dit Piper, c'est un manque d'arrogance qui nous empêche de faire confiance au verdict gratuit de Dieu, qui est l'absence de condamnation. Si vous retenez quelque chose d'aujourd'hui, j'espère que ce sera ceci, car ce sera une rupture dans votre vie. Soyons humbles. Retirons-nous du siège de juge et laissons Dieu être ce qu'il est et prononcer le verdict d'absence de jugement. C'est vraiment important. Maintenant, je vais passer un peu de parler sur la grâce et la puissance, le pouvoir. Le pouvoir de la grâce est de transformer nos vies. Dans titre 2, versets 11 et 14. Car Dieu a réveillé sa grâce, source de salut pour tous les humains. Elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et aux désirs terrestres pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. C'est ainsi que nous devons attendre le bonheur que nous espérons et le jour où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartient en propre et qui soit zélé pour faire des actions bonnes. La grâce que nous recevons de Dieu agit dans notre vie et c'est là son pouvoir. Elle nous aide à vaincre le péché et à mener une vie maîtrisée, droite et pieuse. Et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. À la fin de temps de prière et de jeûne de janvier, Dieu nous a apporté une image et une parole prophétique qui parle de sa puissance. C'est une image de l'eau. J'ai refait quelques notes. Et cette eau donne. Cette eau donne nous la puissance. Et sa puissance est cette grâce qui nourrit le monde. Si nous avons vraiment accepté l'amour de Dieu et que nous vivons dans la foi, que nous nous sommes repentis de nos péchés et que nous sommes libres grâce à sa grâce, nous sommes capables de servir le Seigneur en plénitude et de vivre ce à quoi il a appelé chacun de nous. C'est la nouvelle saison dans laquelle il nous a appelés. Comprendre la véritable réalité de la grâce, vivre avec elle et se nourrir d'elle. Notre foi grandit lorsque nous vivons dans la grâce. Lorsque nous acceptons la grâce et que nous lui permettons de changer, de transformer nos vies. Si vous regardez en arrière, vous verrez à quel point votre vie a changé. Et j'espère, pour le bien. Pensez un instant. Où en étiez-vous hier dans votre foi? Et il y a un mois? Il y a un an? 10 ans? Où en étiez-vous? Jacques 1, versets 2 et 3. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes ces sortes d'épreuves, car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Vivre dans sa grâce nous donne la victoire sur le péché et la tentation. Et le résultat est que notre foi grandit. Au fur et à mesure que notre foi grandit, nous commençons à l'exercer et accomplir des œuvres pour Dieu à partir de notre foi. Dieu nous a donné des appels et des dons. Et par la grâce, notre foi nous permet de commencer à exercer nos dons, à les faire grandir, et à les utiliser pour faire avancer le royaume, atteindre les perdus et faire de tous les peuples des disciples. Nous partageons l'évangile, nous prions pour la guérison et la délivrance, nous enseignons et fortifions les autres. Au lieu d'avoir un tel intérieur, nous devrons avoir une autre colonne qui dit grâce à l'intérieur, pas comme l'a dit, c'est la grâce. La grâce nous permet de vivre avec humilité, générosité, compassion et sagesse. Par la grâce, nous ne sommes plus définis par notre passé, nos péchés et nos échecs, mais nous sommes nés de nouveau comme d'être nouveau. Cela signifie que nous pouvons vivre avec confiance et espoir, sachant que Dieu a un bon plan et un but pour notre vie. Autant que personne nouvelle, la grâce nous permet de poursuivre avec audace et confiance, les objectifs que Dieu nous a donnés. Puisque nous n'avons pas besoin de mériter l'amour, puisqu'il est donné gratuitement, notre perspective sur la vie est changée. Et nous pouvons avancer dans la foi pour poursuivre ces choses avec confiance. Cette grâce nous libère de l'échec ou de rejet en cours de route. Car nous savons déjà que nous sommes aimés et acceptés. Ce qui nous permet de surmonter les défis auxquels nous pouvons être confrontés en cours de route. Et nous sommes donnant la force, la sagesse et la persévérance. Philippiens 4, 13. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Nous pouvons poursuivre notre but et notre destinée. Notre croissance spirituelle ne se fait pas du jour au lendemain, mais par la grâce et la connaissance de Dieu et de Christ. La grâce transforme finalement nos désirs, nos motivations et notre comportement. Ce matin, nous avons parlé un peu sur les poussins. Les poussins ont besoin de sortir. Nous avons un besoin de sortir. Nous avons besoin d'être guidés par Dieu, par la grâce de Dieu, de faire les choses que Dieu nous a données. Graham et Caroline ne viennent pas de prendre leur retraite dans le sud de France parce qu'il est beau. Graham, ils viennent de servir nous, de servir Dieu. Est-ce qu'on va sortir comme les poussins? On reste avec la poule. Pour conclure, notre défi est de comprendre pleinement la grâce de Dieu et de la laisser transformer notre vie. Permettez-lui de s'infiltrer dans tous les aspects de notre vie et de nos relations. Non seulement nous vivons dans la grâce, mais nous donnons la grâce aux autres. Vivons dans le pardon. Libérez-vous et ne vous crochez pas. Donnez-vous à vous-même. Pardonnez-vous à vous-même. Ne vous accrochez pas au passé. Libérez-le et vivez comme un être nouveau. En tant qu'Église, si nous saisissons cela alors que nous entrons dans cette nouvelle saison, nous verrons la puissance du Seigneur nous traverser et toucher non seulement cette communauté, mais aussi franchir les murs de cette propriété et de se prendre dans les rues du monde que nous entoure. Ça, c'est le mot prophétique que Dieu a donné. Dieu nous a donné. Saisissons cette compréhension de la grâce. Et nous ne laissons pas aveugles par nos propres peurs, nos doutes et notre orgueil. Nous avons été appelés à être une église de ressources, ce qui signifie que nous devons vivre dans cette grâce. Car nous avons besoin de la puissance de Dieu dans nos vies et dans tout ce que fait l'Église. Merci.